Hey, oh, à vous les Burgiens, votre magazine d'infos 100% local. Interview, reportage, suivez-nous, on est les seuls à vous y emmener. Bonjour à toutes et à tous. Un saut dans le passé en mai 1968. Il y a 50 ans, la France vivait au rythme des manifestations et des grèves partout dans le pays. Écoutez, deux voix, deux témoignages, deux expériences des événements. Gérard Boinon, paysan dans l'Ain, avait 19 ans. À des centaines de kilomètres de là, à Paris, Marie Rouxel étudiait à la Sorbonne. À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM.
Savez-vous que mai 68 a commencé en mars ?
Après le baby boom qui fait suite à la Seconde Guerre mondiale, les difficultés démographiques se multiplient. Il n'y a plus assez de place dans les universités. Le chômage augmente sous la présidence de Gaulle.
Les jeunes sont au cœur de ces difficultés. Ils se lassent de cette société de consommation et du manque de perspectives. Petit à petit, les ouvriers et les salariés développent les mêmes sentiments. C'est le début du mouvement appelé mai 68. Tout commence à l'université de Nanterre. Elle est voisine d'un bidonville.
Le 22 mars, il y a une révolte, menée par Daniel Cohn-Bendit. Ce mouvement d'extrême gauche s'insurge contre l'institution universitaire jugée capitaliste. Les étudiants occupent l'université.
Le 2 mai, une journée anti-impérialisme est organisée à l'université de Nanterre. Le doyen de l'université, Pierre Grappin, décide alors la fermeture administrative de la faculté, suite à de nombreux accidents. Cette décision provoque la diffusion du mouvement de contestation.
Le mouvement se réfugie alors à la Sorbonne et mai 68 peut commencer. Au niveau national, le mouvement n'est pas pris au sérieux. Les étudiants qui manifestent appartiennent à une classe socialisée. Le reste des Français ne se sentent pas concernés. La police intervient brutalement à la Sorbonne pour disperser le meeting des étudiants. La crise étudiante devient une crise nationale.
Dans la nuit du 10 au 11 mai, étudiants et CRS s'affrontent violemment. On décompte environ 600 blessés. Cette nuit a été nommée la nuit des barricades. Au réveil, la France découvre le combat des étudiants et la violence policière. Les syndicats rejoignent la cause. Ils manifestent contre les violences policières et revendiquent une amélioration des conditions de travail.
Le 14 mai, une vague de grève nationale s'enclenche. La révolte des étudiants devient une véritable grève sociale.
Et savez-vous que mai 68 se poursuivra jusqu'en juin ?
Eh oui, le 12 juin 1968, les étudiants reprennent les cours. Le 23 juin a lieu le premier tour des élections législatives.
Il n'y était pas, mais 50 ans après, il parle de mai 68.
Écoutez sur Radio B les chroniques réalisées par des élèves du lycée Les Sardières.
Diffusion les mercredis et vendredis à 7h15, 8h15 et 12h15.
Merci à Cécile et Quentin pour cette première chronique sur les origines de mai 68. Ne manquez pas la suite en mai sur Radio B. À venir, le slogan « Il est interdit d'interdire les violences » ou encore la liberté d'expression.
Radio B, Radio B.
Marie Rouxel est née en banlieue parisienne. Aujourd'hui, elle habite Bourg-en-Bresse. En mai 1968, elle avait presque 20 ans. Elle étudiait la sociologie à la Sorbonne, à Paris. C'était sa première année. Juste avant les événements, Marie Rouxel décrit une atmosphère tranquille avec quelques manifestations, de temps en temps, liées à la guerre du Vietnam. Elle se souvient très bien comment tout a commencé à la Sorbonne. Elle y était.
C'était le vendredi 3 mai. Je devais avoir un cours de démographie ou de sociologie, je ne sais pas, dans le grand amphi de la Sorbonne. Et en sortant de ce cours sur le coup de midi, il y avait du monde dans la cour de la Sorbonne et on entendait que c'était des gars qui venaient de Nanterre, donc des étudiants qui venaient de Nanterre, ça discutait fort dans tous les coins. Bon, moi je ne suis pas restée à ce moment-là, je suis partie faire un tour, j'avais des cours normalement en fin d'après-midi et au retour dans l'après-midi pour retourner prendre ses cours, il y avait des flics partout sur le boulevard Saint-Michel. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui se passaient qui n'étaient pas trop normales. Ça a démarré comme ça. En fait, c'était effectivement les étudiants de Nanterre qui étaient venus parce que la faculté de Nanterre avait été fermée la veille. Donc le mouvement du 22 mars avec Daniel Cohn-Bendit à sa tête et ses copains. Et donc ils avaient commencé à investir un peu la Sorbonne. Il y avait des bruits qui couraient comme quoi les groupes d'extrême droite allaient arriver. Du coup, le recteur a appelé les forces de police pour faire évacuer la Sorbonne. Des étudiants ont été embarqués. Et ceux qui n'avaient pas été embarqués ont commencé à s'énerver dans le quartier, à crier « Libérez nos camarades !» Et voilà.
La poussée de fièvre a surpris par son ampleur et le degré de sa violence. Une violence qu'on n'avait pas connue ici depuis longtemps.
Donc vous aviez presque 20 ans. Quel était votre regard sur les événements ?
J'ai tout de suite participé aux manifestations, enfin dès le mardi 7, ensuite le 13 mai, le jour où il y a eu la grande manifestation avec l'appel à la grève générale. Mais en même temps, moi, j'étais pas très, très politisée à l'époque. Je pense ma politisation s'arrêtait à la lecture du Nouvel Observateur, qui était à l'époque un journal de gauche. Et donc, c'est vrai que je voyais ça, mais sans toujours comprendre ce qui se passait. En plus, quand la Sorbonne a été ouverte et occupée, il y avait des assemblées générales dans le Grand Amphi, très enfumées, avec tous les groupes, groupuscules de l'époque. Alors, la JCR d'un côté, enfin, les trotskistes, les Mao Spontex, les ANA. Ça partait dans tous les sens, tout ça tapait tous ensemble sur le PC, la CGT, ça c'est le souvenir que j'en ai. Moi j'avais un petit peu de mal à faire la différence entre tous ces groupes, il y en avait qui parlaient mieux que d'autres, voilà. Mais après, quelle idéologie vraiment il y avait derrière, à l'époque, en mai 68, j'avais vraiment du mal à faire le point là-dessus.
Et qu'est-ce qui vous a convaincu de rejoindre ce mouvement, d'y participer ?
De fait, moi, j'avais des copains qui ont tout de suite embrayé. Et puis, c'est ça, c'était, il fallait libérer nos camarades. On avait fermé la Sorbonne, alors que normalement, il y avait une tradition ancestrale qui fait que les forces de police ne pouvaient pas rentrer normalement dans cet établissement d'enseignement. Donc, c'était qu'il fallait réouvrir la Sorbonne. C'était la première chose. Et puis après, ça a embrayé sur les grèves, ça a embrayé sur les ouvriers, etc. On s'est dit, vraiment, il y a quelque chose qui bouge. Et moi, je dois dire que je pense que à l'époque, j'ai dû suivre un peu le mouvement. Moi, j'avais un frère un peu plus âgé. On est allé aux manifs ensemble. J'avais des copains, des copines. On allait à la manif, quoi. C'était, on embrayait comme ça.
Grève illimitée, les portes se ferment, les piquets se forment. Grève illimitée, les bras fatigués, délaissent la chaîne, les tours sont muets. Grève illimitée. Grève illimitée. Quand elle monte des usines, la colère. Quand elle monte des usines, la colère à la voix des machines. Ce n'est qu'un début, tout s'immobilise. On parle de crise, ce n'est qu'un début. On marche beaucoup, Paris sans essence, dialogue partout. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début.
Je veux dire, c'est pas sur mai 68 même que les choses ont bougé, c'est après. Mai 68, c'est un moment où ça boue, ça discute dans tous les sens. C'est vrai que ça discutait dans tous les sens, ce qui était peu le cas avant, notamment avec les adultes. Hein. Moi, je suis 19 ans, j'étais gamine. Avec les parents, il y avait des discussions. Il y avait des discussions absolument partout. On attendait le bus qui n'arrivait pas parce que de toute façon c'était en grève, ça discutait à l'arrêt de bus, on allait chez la boulangère, ça discutait. C'était des discussions assez sereines, je trouve. Les adultes, ils avaient envie de savoir ce qui se passait aussi. Et puis, ce qu'il faut se dire, c'est que dans ces adultes, il y en a un bon nombre qui avaient vécu 1936. Et le Front populaire. Donc, ils avaient envie de savoir ce qui se passait avec ces étudiants. Est-ce que ça allait embrayer sur autre chose, etc.
Vous parliez de quoi ?
Des événements, de ce qui se passait, des bagarres, des voitures brûlées, des barricades. Qu'est-ce que voulaient les étudiants ? Donc, on essayait à chaque fois d'échanger. Donc, ça va sur les événements. C'était pas vraiment moi. Enfin, en tout cas, dans les relations avec les adultes, c'était plutôt sur les événements. Sur le fond, alors là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que les assemblées générales, il y avait des assemblées générales sur tout et n'importe quoi, des commissions dans tous les coins de la Sorbonne sur tout et n'importe quoi aussi. Donc, c'était l'idée, ça fait la révolution, quoi, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'on mettait derrière ? Bon, il y en avait qui avaient peut-être une idée précise de ce qu'ils mettaient derrière. Moi, je dois dire qu'à 19 ans, je ne savais pas trop.
Radio B, Radio B.
Qu'est-ce qui vous a marqué pendant cette période ?
Qu'on a marché, marché, marché. Moi, j'habitais en banlieue, donc il n'y avait plus d'autobus pour aller jusqu'à Paris. Donc ça veut dire qu'il fallait, j'avais bien 5-6 kilomètres à faire pour y aller. Qu'une fois qu'on était arrivé, il y avait les manifs où on continuait à marcher, marcher, marcher. Ça, c'est vrai que ça m'a marqué. j'ai beaucoup marché, qu'il faisait beau. Et donc, c'était assez cool d'aller manifester finalement. Donc, il faisait beau, on se parlait, c'était un joli mois de mai. Après, c'est des images, c'est des amphis enfumés, parce que ça fumait de partout, et des débats sans fin. Ouais, des images, je vois quelqu'un comme Mouna Aguigui, qui était un clochard philosophe qui se baladait en vélo et qui haranguait la foule sur le boulevard Saint-Michel. Donc lui, il était là partout. Au bout d'un petit moment, le journal L'Enragé, qui était vendu à la criée, des affiches absolument partout, faites par les étudiants des Beaux-Arts. Voilà, c'est des images, en fait, que j'ai.
Et quel slogan vous a marqué?
Le premier qu'on a pu dire, c'était « Libérer nos camarades ». Voilà, parce que c'était la première réaction, c'était pour ça. C'était pour libérer les gars, les filles qui avaient été embarqués. Après ça, bah, c'est sûr qu'on a beaucoup entendu CRSSS. Bon, c'était peut-être un peu excessif quand même, parce que c'est vrai qu'il y a eu assez peu de blessés réels. Donc, ce slogan-là. Et après, bah, c'est sûr qu'on a beaucoup vu sur les murs, il est interdit d'interdire, voilà, sous les pavés de la plage. Puis d'autres sûrement beaucoup plus farfelus, mais que j'ai un peu oublié.
Qu'est-ce que mai 68 a changé ou pas pour vous ?
Ça a été à l'origine d'un changement profond dans la société française, qui était quand même bien endormie, avec le général de Gaulle, avec l'ORTF. La télé a changé, parce qu'effectivement, ils se sont mis en grève tous. Et puis, je pense qu'après, c'était un petit peu moins la voix de son maître. Et du coup, la société entière a quand même bien changé. Et donc, on s'est donné l'autorisation des autorisations. On s'est donné des permissions d'expérimenter. Alors, avec plus ou moins de réussite, mais d'expérimenter dans sa vie personnelle, d'expérimenter des choses. Moi, personnellement, en 72, j'ai quitté Paris pour venir à la campagne, avec l'idée que on allait vivre un peu plus en collectif, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, qu'on entend certains dire, c'était des jeunes individualistes, pas du tout. C'était vraiment l'idée, c'était de remettre du collectif dans les choses, de se débrouiller avec un peu moins d'argent. L'objectif, c'était pas de s'acheter une belle bagnole. Ça, je pense que c'est des choses qui ont marqué ma génération. Et en tout cas, moi, alors il y a eu sûrement des valeurs comme ça de fonctionner à plusieurs, d'être plus intelligent à plusieurs que tout seul. Ça, je crois que c'est dans des choses importantes qui m'ont changé, moi. Suite de 68, sûrement.
50 ans après mai 68, vous en retenez quoi ?
J'ai envie de répondre aux attaques, en fait, parce que j'arrête pas d'entendre que ma génération est responsable de tous les maux. D'abord parce qu'on coûte cher, parce qu'on est à la retraite, bon, on a quand même un peu bossé, qu'on est des hyper-individualistes, etc. Alors ça part de quelques individus qui, effectivement, ont mal tourné. Mais je pense que, en tout cas, moi, les amis que j'en ai gardés, que j'ai gardés, ils ont tous été marqués par ça, et ils ont tous gardé des valeurs qui sont des valeurs d'humanisme, qui sont une réflexion sur le monde. Des défauts, c'est pas de les faire changer collectivement. Ça, moi, je crois qu'au bout d'un moment, j'ai un peu oublié ça, mais de se dire que petit à petit, on peut bouger des petites choses, chacun à son niveau, de pas laisser passer les saloperies. Donc, c'est un peu ça que j'en garde. Tenement, a dirty street, walked and worn by shoeless feet, in silence long and so complete, watched by a shivering sun. Old eyes in a small child's face, watching as the shadows race through walls and cracks and leave no trace, and daylight's brightness shone. The days of Pearly Spencer.
The Days of Pearly Spencer de David McWilliams, la bande-son de Marie Rouxel. En mai 1968, elle avait presque 20 ans. Étudiante à la Sorbonne à Paris, elle a vécu les événements de cette période. Aujourd'hui, elle habite Bourg-en-Bresse.
Radio B.
Les paysans de là, du moins les plus anciens, avaient vécu la résistance. Faut pas l'oublier, il y avait 23, 24 ans que la guerre était finie. Quelque part, j'entendais dans les campagnes des gens qui étaient prêts à prendre les armes pour aller lutter contre ces étudiants qui mettait le bordel, qui mettait la chienlit, comme avait dit De Gaulle. Tout le monde n'était pas pareil. Moi, j'avais ma grand-mère maternelle, qui était, elle, aussi une ancienne résistante. Eh bien, elle défendait mordicus.
Restez à l'écoute de Radio B. Gérard Boinon, paysan à la retraite, nous parle de mai 68 à Saint-Trivier-sur-Moignan dans quelques minutes.
Paris, mais Paris, mais Paris, mais Paris, mais Paris, mais Paris. Des pavés ne bougent plus d'un cil. La Seine de nouveau ruisselle d'eau bénite. Le vent a dispersé les cendres de Bendite. Et chacun est rentré chez son automobile. J'ai retrouvé mon pas sur le glabre bitume. Mon pas d'oiseau forçat enchaîné à sa plume. Et piochant l'évasion d'un rossignol titan, capable d'assurer le sacre du printemps. Mais Paris, mais Paris. Ces temps-ci, je l'avoue, j'ai la gorge un peu âcre. Le sacre du printemps sonne comme un massacre. Mais chaque jour qui vient embellira mon gris. Il se peut que je couve un Igor Stravinsky. Paris, mais Paris. Mais Paris, mais Paris.
Claude Nougaro sur Radio B avec Paris, mais. À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM. Après mai 68, depuis Paris, revenons dans l'Ain, à Saint-Trivier-sur-Moignan, où vit Gérard Boinon. Paysan à la retraite, en mai 68, il avait 19 ans et travaillait dans la ferme de ses parents. Il le dit, les événements leur sont un peu tombés dessus. Chez les Boinon, à l'époque, pas de télé et plus de téléphone.
C'était un téléphone manuel, il fallait passer par une opératrice et les opérateurs étaient en grève. Donc on ne pouvait pas communiquer et le fait que j'ai mon frère qui était sur les barricades à Paris, alors on n'avait pas de nouvelles. Donc c'était assez compliqué, surtout pour mes parents, beaucoup plus que pour moi. Moi je rigolais un peu, mais on ne comprenait pas ce qui se passait. On était... quelles étaient leurs revendications vraiment? Le peu de fois qu'on voyait un peu de télévision chez des voisins ou tout ça, on voyait des affrontements et mon père avait énormément peur, ma mère aussi, de cet engrenage de violence.
Et donc votre frère était à Paris?
Il
faisait ses études à Paris.
Il faisait ses études d'ingénieur à Paris, donc il était en première ligne. Et je me rappelle, mon père, à un moment donné, il est enfin arrivé à le joindre au téléphone par un travail énorme. Il était directement à Châtillon-sur-Chalaronne, où il y avait le central téléphonique, où on connaissait une opératrice téléphonique. Donc il a enfin pu le joindre au téléphone en lui disant « Demain, je vais te chercher. J'ai trouvé suffisamment d'essence pour faire l'aller-retour avec ma 4L. » Et puis mon frère qui lui répond « Mais tu peux venir, mais de toute façon, je ne rentrerai pas avec toi. Je suis ici pour refaire le monde. » Donc mes parents étaient complètement atterrés, ne comprenaient pas du tout ce qui se passait. Moi non plus.
Donc vous l'avez dit, vos parents ne comprenaient pas, vous ne compreniez pas. Vous êtes du monde agricole, paysan. Comment ce mouvement était perçu par les paysans de l'Ain?
Les paysans de l'Ain, du moins les plus anciens, avaient vécu la résistance. Faut pas l'oublier, il y avait 23 à 24 ans que la guerre était finie. Quelque part, j'entendais dans les campagnes des gens qui étaient prêts à prendre les armes pour aller lutter contre ces étudiants qui mettait le bordel, qui mettait la chienlit, comme avait dit De Gaulle. Tout le monde n'était pas pareil. Moi, j'avais ma grand-mère maternelle, qui était, elle, aussi une ancienne résistante. Eh bien, elle défendait mordicus. Alors, avec mon père, je me rappelle, il y a eu des discussions énormes. Hein, la grand-mère qui défendait ses étudiants, et puis mon père qui comprenait pas, quoi. Parce que c'est vrai qu'on était dans les 30 glorieuses, que tout marchait bien au niveau de l'agriculture. Alors c'est vrai qu'en même temps, il y a eu le fait que cette paysannerie avait subi en même temps l'exode rural massif dans les années 50-60. Tout le monde était parti, tout le monde voulait aller vivre en ville, bien sûr. La ville, c'était le ciné, le formica, hein, comme disait la chanson. Malgré tout, les engrais chimiques étaient arrivés, la mécanisation avec le plan Marshall était arrivée. Mais pour les paysans, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et en même temps, ils voyaient ce mécontentement étudiant et salariés. Pour les paysans, eh bien, ça a été le début de la fin, 68.
Les usines prennent aujourd'hui un autre aspect, telle la raffinerie de Fezin qui est arrêtée depuis ce matin 6 heures. Seuls restent en place les piquets de sécurité. 1200 personnes sont en grève, fabrication et distribution sont stoppées et les locaux sont occupés. Même situation à Rodiaceta, que ce soit à Lyon-Vesse, Saint-Fons ou péage de Roussillon, le mouvement touche près de 10 000 personnes. Autres usines touchées, Kuhlmann. Chez Berlier, également, 12 000 personnes ont cessé le travail et occupent les ateliers, exposant leurs revendications.
Cette agriculture chimique industrielle qui s'est mise en place avec l'élimination massive du monde paysan. Hein, aujourd'hui, on n'est plus que 500 000 paysans sur l'ensemble de la France, quoi. À la sortie de la guerre, tout le monde était paysan, tout le monde avait sa famille de paysans, quoi.
Avec mai 68, c'était vraiment deux mondes qui se regardaient un petit peu à distance, la ville et les paysans.
Oui, et à partir de ce moment-là, les petits paysans ont complètement été abandonnés et par l'État et par la profession agricole qui ne voyait qu'une seule chose. Ils appelaient ça la modernisation agricole. Et à partir de ce moment-là, on est rentré dans ce qu'on sait. Aujourd'hui, la malbouffe, aujourd'hui, des fermes à 1000 vaches, etc., etc. Et ça a été vraiment l'élément, à mon avis, l'élément déclencheur. Voilà, c'est l'analyse que j'en fais aujourd'hui avec 50 ans de recul.
Radio B, Radio B.
Donc vous avez 19 ans, vous voyez donc que vos parents sont inquiets, vous comprenez pas. Qu'est-ce que vous avez fait face à ce mouvement, vous, personnellement?
Je voyais des bagarres entre ma grand-mère et mon père. Je voyais des bagarres qui se passaient au niveau du village, parce qu'il y avait, le mouvement ouvrier qui défendait ça, et puis les paysans qui étaient contre. Et moi, j'avais pas de conscience politique à l'époque.
Mais vous n'avez pas du tout participé aux manifestations qu'il y a pu y avoir, par exemple, à Bourg-en-Bresse?
Ah non. Ben non, mes parents ne m'auraient pas laissé aller, hein, parce qu'il faut savoir que moi, j'ai eu la majorité qu'à 21 ans. Par contre, je faisais partie d'un mouvement de jeunes, et dans ce mouvement de jeunes, il y avait un slogan: ne laissons pas les autres décider à notre place. Et moi, je crois que ce slogan m'a après habité toute la vie. Parce qu'il y a eu peut-être ce petit déclic qui s'est passé en 1968 en disant « Ouais, ben, il ne faut pas laisser les autres décider à notre place, donc il faut prendre notre place dans la société. »
Quelle image gardez-vous de mai 68?
Je ne sais pas si j'ai une image bien précise. Par contre, quand même, une image d'être joyeux, et que ça a changé des choses. Pour les femmes, il y a eu la pilule. On a vécu l'amour débridé.
Après, un vent de liberté, quoi.
Un vent de liberté, évidemment, un vent de liberté. Et même dans les campagnes, ça a été ressenti. Alors, on ne l'a peut-être pas ressenti tout de suite après mai. Ça a peut-être été 1970, 72. Hein, je pense que ça a mis quelques années pour arriver dans nos campagnes. Mais ça y est arrivé, on n'avait pas le sida, on n'avait rien. Donc voilà, cette vente de liberté où tout était permis, quoi, quelque part.
15 bourgs et son 15 bourreaux ont pris le ferryboat. De leur lit, par le hublot, ils regardent la côte. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Ils vaincront les maléfices jusqu'en 70.
69.
qu'est-ce que mai 68 a changé ou pas pour vous personnellement?
On serait peut-être moins rentré dans cette agriculture chimique industrielle, j'aurais peut-être pas construit une porcherie de type industriel, hein, parce qu'après j'ai remis en cause un certain nombre de choses, moi, mais il a fallu un certain nombre d'années pour y remettre en cause au niveau de ma ferme. Travailler avec la nature, travailler avec les insectes, avec les oiseaux auxiliaires, hein, quand sur la fin de ma carrière où je me suis mis, au lieu d'utiliser des insecticides, eh bien j'utilisais des mésanges bleus.
Vous ne seriez pas allé dans le chemin de l'agriculture industrielle?
Je pense qu'on n'y serait pas allé de la même façon. Parce que justement, cet exode rural massif qui a été poussé, puisque la non-reconnaissance du monde paysan, hein, le paysan qui ne pouvait pas ou qui ne faisait pas de l'investissement lourd, hein, bâtiments d'élevage, tracteurs et tout, eh bien, il était mis à l'index. Et je crois qu'il n'y aurait pas eu mai 68. Est-ce que ça aurait mis plus longtemps? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on n'y serait pas arrivé quand même en mettant plus longtemps? Est-ce que c'est vrai que ça a appuyé sur l'accélérateur? Ça a appuyé sur l'accélérateur de façon conséquente. Mais il n'y avait pas que ça, hein, puisqu'il y a eu aussi toute la politique agricole commune, hein, la PAC.
Donc de l'Union européenne.
De l'Union européenne, hein, qui en même temps a mis ça en place. Quoi.
50 ans après mai 68, vous en retenez quoi?
Ah ben pour moi, une avancée énorme, mais c'est à recommencer, cette entre guillemets révolution. On a doublé pratiquement le SMIG, il y a eu une reconnaissance énorme de la part du monde salarié. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Pour les ouvriers agricoles aussi, à ce moment-là, ils ont pu enfin... Hein, parce qu'avant, c'était le commis, hein, ils mangeaient à la table, ils vivaient avec le patron, ils couchaient dans les tables. Tout ça, à partir de ça, ça a été supprimé, quoi. Ça a été supprimé. L'ouvrier, il avait un salaire, quoi, même en agriculture. Donc ça, pour moi, ça, 50 ans après, c'est vrai qu'aujourd'hui, les puissances de l'argent font que c'est à recommencer. D'ailleurs, on sent un vent, pour le moment, c'est qu'un petit vent, hein, mais il suffirait d'appuyer un peu fort sur et puis ça pourrait repartir.
Au printemps, de quoi rêvais-tu? Vieux monde clos comme une orange. Faites que quelque chose change. Et l'on croise des inconnus riant aux anges. Au printemps, de quoi rêvais-tu? Au printemps, de quoi riais-tu? Jeune homme bleu de l'innocence, tout à couleur de l'espérance, que l'on se batte dans la rue ou qu'on y danse. Au printemps, de quoi riais-tu? De quoi rêvais-tu? Point levé des vieilles platailles. Et qui sait pour qu'elle se maille? Quand la grève épousant la rue bat la muraille. Au printemps, de quoi rêvais-tu? De quoi doutais-tu? Mon amour que rien ne rassure. Il est victoire qui ne dure que le temps d'un ave pas plus ou d'un parjure. Au printemps, de quoi doutais-tu? quoi rêves-tu? D'une autre fin à la romance. Au bout du temps qui se balance, un chant à peine interrompu, d'autres s'élancent. Au printemps, de quoi rêves-tu? D'un printemps ininterrompu.
Printemps, de quoi rêvais-tu de Jean Ferrat pour refermer le témoignage de Gérard Boinon. En mai 1968, il avait 19 ans et il était paysan à Saint-Trivier-sur-Moignan dans l'Ain.
À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous le lundi 7 mai pour un nouveau numéro spécial mai 68. Merci pour votre écoute. Retrouvez à vous les Burgiens tous les lundis à 17h15. Rediffusion mercredi à 13h, samedi et dimanche à 8h. Et à tout moment sur notre site radio-b.fr.